C'est la suite de l'évangile de dimanche dernier, le grand discours sur le pain de vie. Et le thème de ce discours, c'est que le pain de vie, c'est l'incarnation du Verbe, tout simplement, celui qui vient du ciel, celui qui descend du ciel. Et le discours commence, il est polémique, hein, c'est après la multiplication des pains, Jésus revient à Capharnaüm, la foule vient à lui, émerveillée par sa puissance et sa bienveillance. Et Jésus leur dit, vous venez à moi parce que, non pas parce que vous avez vu des signes, sous-entendu de Dieu, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Et c'est juste pour ça que vous venez me voir. Le grand discours là, qui commence, on a vu la première partie dimanche dernier, il est structuré en trois parties, selon les trois récriminations des Juifs qui ponctuent ce discours. Trois récriminations, trois réponses de Jésus à ces objections des Juifs. La première partie, c'était l'œuvre de Dieu dimanche dernier. L'œuvre de Dieu, c'est l'incarnation. Aujourd'hui, c'est la question de l'identité du Christ. Celui-là, il vient, on connaît son père, on connaît sa mère. Mais voilà, en fait, ils ne le connaissent pas. Et puis enfin, la troisième partie, c'est la suite, hein. C'est la modalité même du salut, la chair. Et les Juifs contestent ces trois affirmations. À chaque fois que Jean utilise les Juifs pour parler de l'auditoire de Jésus, c'est qu'on est dans le domaine du refus de la foi. Les Juifs, c'est une question de langage, mais c'est comme ça qu'ils désignent ceux qui sont à la fois religieux et qui en même temps refusent le Christ lui-même. Alors, d'abord, c'était dimanche dernier, le salut vient de Dieu. C'est pas Moïse qui vous a donné la manne, c'est mon Père qui vous a donné la manne. Et il donne maintenant le pain venu du ciel. Ce que Jésus dénonce, c'est l'absence de transcendance de la foi des Juifs. Là encore, c'est le premier piège à éviter dans la vie spirituelle. Il ne faut pas aimer Dieu seulement pour les choses de la terre, en cette vie simplement. Il faut accueillir la foi dans son entièreté. Et l'entièreté de la foi, elle va loin, puisqu'elle va jusque dans l'éternité, jusqu'à l'infini. Et elle dépasse tellement la vie présente. Il faut accepter que la vie présente ne soit que la fraction de seconde qui inaugure l'éternité. Aussi, tout ce qui peut nous arriver de joie, mais aussi d'épreuves, de limitations, de frustrations, bref, tout ce qui fait le composé de la vie humaine entre lumière et ténèbres, eh bien, il faut accepter que ce soit dépassé par une éternité qui va la transcender, la transfigurer. Si on n'accepte pas la transcendance, on ne franchit pas la première étape de la foi, selon la progression de ce discours, de cette grande leçon que Jésus donne à la foule, pourtant au départ favorable, enthousiaste vis-à-vis du signe qu'il avait accompli. Mais justement, il leur reproche de ne penser qu'au pain matériel et non pas au véritable sens de ce pain. Le pain venu du ciel. Donc, le salut vient de Dieu. Ça, on croit toujours, on espère toujours que le salut va venir des hommes. Mais ce n'est pas le cas. Les hommes politiques, ne multiplient pas les pains. Ils divisent plutôt le bien commun, mais le multiplier, ils ont beaucoup plus de mal. Ils ont de belles paroles. Mais ces belles paroles ne produisent rien, tandis que celles du Seigneur, qui ont plus de 2000 ans d'âge, eh bien, elles continuent de nous nourrir jour après jour. C'est l'infini dans la parole, c'est la parole de Dieu. Le salut vient de Dieu, vraiment il faut s'en convaincre. Et il faut entrer dans la grande perspective de la transcendance de la vie terrestre. Alors cette vie terrestre prend vraiment son sens. Et puis on n'est pas brisé par les épreuves qui inévitablement viennent nous frapper, nous purifier. Elles nous font grandir, au contraire, parce que c'est le propre de la prière du chrétien de demander à Dieu de changer le mal en bien. Quand on n'a pas la foi, on reste sur le mal et le mal nous détruit. Il faut toujours demander à Dieu de changer le mal en bien. Et le bien, eh bien, nous parle, il ne s'arrête jamais à lui-même. Vous voyez, lorsqu'on a de bonnes choses qui nous arrivent, eh bien, ça nous fait, ça aiguise notre appétit en quelque sorte, et on en demande toujours plus, mais pas dans le sens du gourmand, dans le sens du, je dirais, de l'homme qui se renouvelle, qui veut vivre en plénitude, et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Or, la vie présente est toujours un appel à la plénitude sans jamais la communiquer vraiment. C'est ce mélange qui fait que la vie terrestre est ce qu'elle est, une sorte de mélange entre lumière et ténèbres, bien et mal. Ensuite, c'est la seconde partie qui nous occupe maintenant, le Christ, c'est l'envoyé du Père. Et là, on voit tout de suite le blocage. On voit les Juifs qui, eh bien, opposent l'institution à la liberté divine. Et la liberté divine, c'est de susciter des prophètes en dehors du temple, en dehors de l'institution religieuse de l'époque. Jésus est lui-même le fruit de la liberté divine. Et c'est ce que les Juifs lui reprochent, de ne pas s'en tenir à son conditionnement, être le fils de Joseph et de Marie, devenir charpentier et puis s'arrêter là. Et s'il veut aller plus loin, eh bien, il faut que lui-même se mette au service de l'institution. Il faut que ce beau pouvoir qu'il a entre les mains, très bien, il peut multiplier des biens matériels, eh bien, peut-être même peut-il écraser les Romains, on espère. Donc, il doit le mettre au service de l'institution. Mais Jésus n'est pas venu pour se mettre sa toute puissance au service de l'institution. Il est venu pour illuminer les âmes et les attirer jusqu'à lui, jusqu'auprès du Père, en d'autres mots. Donc, il y a cette opposition qui est très forte. Donc, déjà, on refuse la transcendance, et quand Dieu vient, eh bien, on refuse qu'il fasse des signes qui ne servent à rien pour l'ici-bas, ou qui servent temporairement, donc qui ne servent pas finalement. La troisième partie, Jésus dit, bien, le pain vivant descendu du ciel, c'est ma chair, pour la donner pour la vie du monde. C'est la passion que Jésus évoque évidemment de cette façon-là. Et le refus de comprendre de la part des Juifs, c'est le refus de la culpabilité, c'est le refus même d'être pécheur. Et ça, les hommes montrent sans cesse ce travers. Si les hommes étaient dans l'humilité, les incroyants s'entendent, eh bien, ils reconnaîtraient qu'au bout d'un moment, qu'ils sont dans l'erreur. Ils feraient marche arrière ou changeraient de direction. Ils seraient ouverts donc à la conversion. Le problème, c'est que l'homme refuse de se regarder comme pécheur et comme coupable. Et paradoxalement, on est dans une époque donc de l'homme qui se reconnaît hors du péché, hors du bien et du mal, par-delà le bien et le mal, disait Nietzsche. Et paradoxalement, on a des individus par myriades qui souffrent de problèmes de culpabilité qui se traduisent par un mal-être psychologique généralisé. Ce sont des paradoxes. Quand on veut effacer d'un côté, au niveau religieux, la culpabilité, elle ressort d'un autre côté. Parce qu'on ne peut pas l'effacer. Dieu seul peut effacer la culpabilité du péché. C'est la grande grâce qu'on reçoit de lui. Et c'est pourquoi il est vraiment le vivant. Il précise ailleurs qu'il vient du Père et qu'il a lui-même la vie, comme le Père a la vie en lui-même. Et il est le seul à pouvoir communiquer cette existence, cette vie. Et cette vie, elle n'est pas simplement biologique, elle n'est pas simplement psychologique. Ça va au-delà. Ce qu'on appelle le bonheur, c'est l'équilibre du vivant. C'est le vivant qui est bien là où il est, bien droit dans ses bottes, en quelque sorte, qui n'est pas en déficit de sens par rapport à sa vie, par rapport à sa vocation, par rapport au monde globalement tout autour de lui, et qui n'est pas en manque d'amour non plus, ni à recevoir, ni à donner. Celui-là, eh bien, vit vraiment de la vie que le Christ communique à nos âmes. Le refus de l'incarnation, c'est ça qui est au centre de cette polémique. Les hommes veulent toujours conquérir le ciel, c'est la tour de Babel. On construit ce monument, donc cette idéologie, puisqu'il n'y a pas de roi dans la tour de Babel, donc c'est une idée qu'on construit là, et il faut pour conquérir le ciel. Et les hommes divinisent leur liberté, mais ils ne divinisent jamais leur responsabilité. La liberté, oui, mais pas la responsabilité sur le mal dans le monde. Or, quand on veut, quand on refuse Dieu, on tombe inévitablement, eh bien, on prend sa place. Et on prend sa place pour le bien et pour le mal aussi, pour la gestion du monde et pour tout ce que ça coûte. Donc, le mouvement inverse est celui de la foi, c'est celui de la descente. Nous n'avons pas à monter à la conquête du ciel. Nous avons en revanche à recevoir celui qui descend du ciel. Et il n'est pas descendu seulement au moment de l'incarnation, il descend dans les sacrements, il descend lorsque le fidèle ouvre sa Bible et commence à méditer. Et là, Jésus descend et se tient à côté de lui automatiquement. Jésus est vraiment un maître comme nul autre. Il est vraiment l'image du Père. Il faut le recevoir, celui qui vient du ciel. Et comme venant du ciel, pas sans savoir d'où il vient. Il est bien plus que le fils de Joseph ou de Marie. Il est bien sûr le fils de Marie, mais il est beaucoup plus que celui que ses contemporains imaginaient. Le monde moderne, vous voyez, est en crise. Et ça prouve inévitablement, ça devrait prouver à nos contemporains que le salut ne peut pas venir du monde, ne peut pas venir des hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la multiplication, l'incapacité des politiques ou des businessmen à multiplier. Eux, ils divisent toujours. Mais c'est des fausses multiplications. La vie procède par multiplication. Et Jésus procède, lui, il multiplie le Seigneur. Il multiplie jour après jour notre capacité d'aimer, de nous émerveiller. Notre capacité d'être le fruit gratuit de son amour. Et la vie, c'est ça. On devrait vivre comme les fleurs ou comme les animaux, de ce point de vue-là, dans la pure gratuité, dans la joie, dans la louange et la reconnaissance envers notre Créateur. Pour obtenir la vie, eh bien, nous avons la parole de Dieu qui nous nourrit et nous avons les sacrements. Et ce que la parole de Dieu et les sacrements nourrissent, c'est pas notre corps, c'est notre âme. C'est pas notre psychisme, c'est pas pour le bien-être. C'est ridicule, le bien-être. L'homme en état de bien-être, c'est un ruminant qui a de l'herbe bien verte. Voilà, ça c'est le rayon bien-être, on devrait l'illustrer comme ça, je trouve, dans les grandes librairies, là, un beau ruminant, là, bien propre, et qui broute tranquillement, voilà, ça c'est le bien-être. Mais sur la terre, on est dans un grand champ de bataille, on n'est pas dans le bien-être. Et le problème des incroyants, c'est de refuser l'effort, la transformation, la lutte, pour parvenir à se débarrasser de l'ennemi. Et l'ennemi, il est très ténébreux, et l'ennemi, il ne veut pas lâcher prise, pas si facilement que ça. Nous avons besoin, pour être sauvés, de notre Dieu. Alors mangeons la nourriture qu'il nous donne, pour, à l'instar d'Élie, eh bien pour marcher jusqu'à la montagne où il nous appelle, où il nous accueillera, où nous le verrons face à face. Mais nous avons tout un désert à traverser, et traversons-le, parce qu'il est là pour nous nourrir en cours de route.